Nous recevons Camille de Toledo, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier, vous publiez un essai, une histoire du vertige aux éditions Verdier. Et si je vous ai invité, c'est parce que vous aussi, vous vous intéressez au pouvoir de la littérature et notamment aux raisons pour lesquelles la littérature a une place spécifique dans nos vies. Pourquoi nous sommes des êtres de fiction? Qu'est-ce qu'il y a de si singulier, Camille de Toledo, dans notre rapport à la littérature?
Alors ouais, moi je m'intéresse à la manière dont en fait le langage devient au fil de la vie un appui y compris physiologique. Donc en fait sur des incidences sur le corps, comment est-ce qu'on s'appuie sur des histoires, comment est-ce qu'on est fait de tissus d'histoires, comment est-ce qu'on habite narrativement le monde, et donc comment ça devient vraiment un appui. Et donc dans l'histoire du vertige, oui, je pars de la figure du Quichotte, qui est un peu une sorte de figure acmique, emblématique de cette manière d'habiter narrativement le monde, au point d'oublier en fait ce que je nomme la vie nue, et donc de se détacher de l'expérience vécue. On se souvient, Sancho Panza ne cesse de lui rappeler à quoi il se heurte, et sans cesse en fait Don Quichotte conjure et répond en quelque sorte par une nouvelle production fictionnelle. Donc en fait, ça engage un peu plus pour moi que la littérature. C'est la manière dont nous habitons, y compris physiologiquement, comment le langage en quelque sorte ment. C'est vraiment la phrase « tenir parole ». Nous tenons à la parole, et donc en fait, lorsque quelqu'un ment, il y a quelque chose qui se brise dans le tissu de la vie, et les appuis, y compris de l'existence, les appuis du corps tombent. Un enfant à qui on a menti, il va mettre du temps en quelque sorte à sortir du tissu d'histoire dans laquelle il a grandi. Et donc il y a chez moi ça rejoint sans doute la question du mal, mais c'est comment est-ce que le langage fait mal au monde? Et comment est-ce que le langage produit du mal, en fait? Y compris la littérature qui peut produire le mal, en fait. Et donc c'est ça et c'est cette sorte de cassure, ce que j'appelle le vertige, c'est la cassure entre les codes que nous produisons, nous autres humains, pour habiter le monde et l'expérience vécue. Voilà.
Don Quichotte est une référence centrale dans votre ouvrage, et nous avons trouvé dans les archives de France Culture une adaptation radiophonique du chef-d'œuvre de Cervantes avec, et on n'en est pas peu fier, avec Bernard Ménez dans le rôle de Don Quichotte.
Ils cheminèrent quelques instants en silence. C'est alors qu'ils découvrirent dans la plaine une trentaine de moulins à vent.
La chance conduit nos affaires mieux que nous pourrions le souhaiter. Vois-tu là-bas, Sancho, cette bonne trentaine de géants démesurés? Eh bien, je m'en vais les défier l'un après l'autre et leur ôter à tous la vie. Nous commençons à nous enrichir avec leurs dépouilles, ce qui est de bonne guerre. D'ailleurs, c'est servir Dieu que de débarrasser la face de la terre de cet ivraie.
Des géants? Où ça?
Là, devant toi, avec ses grands bras, dont certains mesurent presque 2 lieues.
Allons donc, monsieur. Ceux qu'on voit là-bas, ce ne sont pas des géants, mais des moulins. Et ce que vous prenez pour des bras, ce sont leurs ailes qui font tourner la meule quand le vent les pousse.
On voit bien que tu n'y connais rien en matière d'aventure. Ce sont des géants. Et si tu as peur, ôte-toi de là et dis une prière le temps que j'engage avec eux un combat inégal et sans pitié. Allons, mon bon Rocinante, à l'attaque.
Monsieur! Je vous dis que ceux que vous allez attaquer sont bien des moulins et non des géants! Monsieur!
Ne fuyez pas, lâchez vite créature! C'est un seul chevalier qui vous attaque! Vous aurez beau agiter plus de bras que n'en avait le géant Briaré, je saurai vous le faire payer!
Un extrait du Don Quichotte disponible sur l'appli Radio France, un feuilleton réalisé en 2018 par Cédric Aussire. Camille de Toledo, pourquoi Don Quichotte est si important selon vous?
Alors, dans l'histoire de la littérature, c'est souvent considéré comme vraiment l'ouverture du roman moderne. Mais la raison pour laquelle moi, il m'intéresse passionnément depuis longtemps, c'est, je me dis, mais en fait, quelle est l'économie psychique de Don Quichotte? Pourquoi, en fait, il tombe, il se relève? Comment il se relève? Et pourquoi il en vient, en fait, à nier, y compris des faits auxquels il se heurte, en fait? Et cette économie psychique, pour moi, rejoint une économie psychique vraiment qui est, en plus, dans les théories, la façon qu'on a d'étudier le cerveau, on voit très très bien qu'il y a quelque chose dans le cerveau humain qui cherche à échapper au corps, à échapper à la matière. Et sans cesse, en fait, Don Quichotte défie sa blessure. Il ne cesse de reproduire la rupture entre l'expérience vécue et la fiction qu'il crée. Et ce qui est très intéressant dans l'expérience historique du Quichotte, c'est que derrière ça, il y a la destruction il y a un certain nombre de destructions en Espagne, de destructions historiques, y compris la fin de la présence juive en Espagne, l'expulsion. Donc il y a un certain nombre de catastrophes historiques qui sont produites, et Cervantes encode ces catastrophes en se posant des questions comme qui croire, que nous fait le langage, comment est-ce qu'on produit de la fiction. Donc c'est comme s'il y avait un lien entre la destruction et la production de fiction. C'est parce que ça détruit qu'en fait on est sans cesse relancé. La figure, c'est il y a eu une catastrophe, on est relancé par l'espoir. Donc en fait, il y a eu un drame humain. Quelles histoires nouvelles on va pouvoir se raconter? Et là, dans le livre, Histoire du vertige, il y a un drame que nous traversons toutes, c'est qu'est la destruction, disons, terrestre. Et donc, en fait, comment est-ce que ce moment chiasmatique est le moment où il y a de la destruction massive, partout, l'écocide, etc. Et en même temps, comment on vit un âge fictionnel absolument vertigineux. C'est-à-dire que ce serait Don Quichotte, premier être netflixien, si vous voulez. Premier être de streaming qui a lu des romans de chevalerie. Et c'est cet alliage entre ce chiasme entre la destruction et la production de fiction qui est au cœur du livre.
Et pour vous, Frédéric Lechterflack, Don Quichotte, que signifie-t-il ?
Écoutez, je suis pas sûre que Don Quichotte il nie les faits en réalité. On se demande en fait quand on relit ce roman, est-ce qu'il nie les faits ou est-ce qu'il sait le réel, mais il décide de pas en tenir compte, il insiste pour le voir autrement. Et au fond, Don Quichotte, je me rappelle des propos de Kundera dans L'Art du roman à propos de ce qu'il considère comme l'ancêtre du roman moderne, effectivement, comme Camille de Toledo le disait. Mais Kundera disait de Don Quichotte, en fait, on sait pas quoi penser de ce personnage, on sait pas si l'intention de ce roman, c'est une critique de l'idéalisme moral du personnage, ou si c'est au contraire une sorte d'éloge nostalgique de cet idéalisme moral, de ce modèle de l'éthique chevaleresque. Et au fond, c'est bien la question de la fiction à nouveau. Est-ce que ces fictions auxquelles Don Quichotte choisit de croire sont toxiques ou est-ce qu'elles sont fécondes ?
Bon, mais ça doit vous plaire, Frédéric Lechterflack, le fait qu'il y ait justement une ambiguïté dans un roman, qu'on ne sache pas finalement si Cervantes est du côté de Sancho Panza ou du côté de Don Quichotte, dans les grands livres, dans ceux que vous étudiez sous forme de laboratoire moral, parfois on ne sait pas.
Oui, bien sûr, et c'est là que la littérature a toute sa place dans le concert des sciences humaines. Là encore, je continue avec mon Kundera de L'Art du roman, qui disait que le roman, il est là pour détruire pendant la nuit la tapisserie que les théologiens, les savants, les philosophes ont tissée pendant le jour. Et donc d'une certaine manière, c'est aussi une contribution à la réflexion et à la pensée que cette ambiguïté de la littérature de fiction.
Et parmi les écrivains, Camille de Toledo, que vous croisez dans votre livre « Une histoire du vertige » aux éditions Verdier, on croise Zweig. Et notamment l'un des livres de Zweig, Le Monde d'hier, vous citez Zweig, je vais lire cette citation, « Si je cherche une formule commode qui résume l'époque antérieure à la Première Guerre mondiale dans laquelle j'ai été élevé, j'espère avoir trouvé la plus expressive en disant « c'était l'âge d'or de la sécurité ». Expliquez-nous.
Oui, d'ailleurs, je reprends parce que c'est important de noter que lorsqu'il emploie ce terme de sécurité, enfin, qui est le mot traduit dans la traduction, pour les hommes, disons, et les femmes du début du XXe siècle, il l'emploie dans un terme, dans un sens qui était, il le décrit d'ailleurs dans Le Monde d'hier, c'est le moment des assurances, c'est l'idée qu'on va vers le progrès, c'est l'idée d'une flèche de l'histoire qui va vers l'avant, qui va produire de la stabilité, de la paix, en fait, avec une idée d'ailleurs de paix perpétuelle. On est avant la Première Guerre mondiale lorsqu'il, enfin, lui écrit évidemment dans les dernières années de sa vie et ce sera un livre posthume, mais il se souvient, il se rappelle ce temps d'avant en le décrivant comme l'âge de la sécurité, qui est très différent du terme sécurité aujourd'hui, qui est à la lumière de toutes les peurs, au contraire, de toutes les instabilités et les troubles qui sont... Voilà. Et donc, la position de Zweig, elle est fascinante dans Le Monde d'hier, parce que c'est comme s'il faisait en quelque sorte la généalogie des différents habitats narratifs dans lesquels ont vécu les Européens au fil des premières années du XXe siècle. C'est-à-dire, en somme, il y a ce temps de la sécurité, l'âge d'or des assurances, on est avant la Première Guerre mondiale, tout va aller vers le mieux. Puis il y a cette absolue destruction de la Première Guerre mondiale. Et la crise de la culture, enfin tout ce qui s'en est suivi, on parle beaucoup de Valéry en ce moment. Et donc comment se relèvent les êtres de humains à la fin de la Première Guerre mondiale par différentes formes de trauma. Donc il y a cette idée d'instabilité, là aussi de vertige qui est déjà là dans les années 20-30. Et il va décrire comme ça au fil de ce livre qui est un livre de chevet pour moi.
Mais alors justement parce que en vous lisant Camille de Toledo, en lisant Zweig et Le Monde d'hier, on se dit qu'on est un peu de retour dans cette situation-là, que les risques, les périls sont à nouveau présents, vous faites l'amour?
Non, je fais pas l'amour. Je dis juste que c'est l'histoire du vertige montre à quel point c'est cyclique en fait. Les phénomènes de foi, de croyance, y compris qui fondent le langage en fait. On croit au langage, on croit à différentes formes d'envoûtement et puis on rechute et puis on reprend. Exactement là, ce que je disais du Quichotte, il tombe, il chute, il reprend, il relance une fiction. Et donc on est tout le temps dans ce trouble fictionnel où on va croire au langage. Donc au fond, moi je souris souvent quand j'entends nous vivons des crises, etc. C'est qu'en fait la crise ne cesse jamais. Il y a une crise entre nos habitats narratifs et le monde et la vie nue. Et en fait, on ne cesse de reproduire ces phénomènes d'envoûtement. Donc où on va se mettre à croire. Donc on a cru par exemple à la fin du 19e siècle à une idéologie qui s'appelait le marxisme, qu'elle allait être la libération, la fin de l'histoire, etc. Et puis on est retombé. Il y a des gens dans les années 20 qui se sont lancés dans différentes formes d'envoûtement narratif politique, qui étaient les fictions du fascisme, et ces narrations-là, en fait, sont retombées. Voilà. Et en fait, après, dans les Trente Glorieuses, on a relancé une fiction de progrès, et nous vivons dans l'Anthropocène, au temps de la crise climatique, dans l'effondrement de ce grand récit. Alors, en fait, sans cesse, on produit, c'est une sorte d'économie psychique dans l'être humain qui produit ces phénomènes d'oscillatoire entre l'ascension par la narration et l'effondrement ou la chute, et donc c'est cette cassure qui est le vertige. Voilà.
C'est quand même paradoxal, Camille de Toledo, parce qu'on a l'impression, on entend souvent dire que, justement, l'une des caractéristiques de notre époque, hélas, parce qu'on rajoute souvent hélas, c'est de ne plus croire.
Lorsqu'on dit ne plus croire, c'est vraiment quel est le référent? Est-ce qu'on il y a des faits?
Hugo Quichotte, on ne connaît pas vraiment sa religion. Enfin, on la connaît parce que ça n'a pas beaucoup d'importance à l'époque, c'est évident. Mais en tout cas, c'est un homme qui croit.
Oui, c'est un homme qui, en fait, enfin, le roman ne cesse de poser la question de qui croire. Est-ce qu'il faut croire Sancho Panza? Est-ce qu'il faut croire le Quichotte? Est-ce qu'il faut, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la question du qui croire. Et c'est une question vraiment propre à l'époque, hein, puisque, en fait, de l'autre côté des Pyrénées, il y a Montaigne, il y a les guerres de religion. En Espagne, on sort de massacres et d'expulsions, liés à des religions. Donc, il y a vraiment cette oscillation, cette tremblement sur le qui croire. Mais c'est vrai que Quichotte est un croyant et il croit au langage. Mais en fait, on ne va pas enlever la croyance. La croyance, elle est consubstantielle au langage. Si quelqu'un, si par exemple, prenons un exemple sur un père qui s'approche de son fils, il dit « Je t'assure, je suis ton père », est-ce que l'enfant a confiance ou pas? Et si 20 ans plus tard, le père n'est pas en fait le père biologique, en fait, le récit dans lequel l'enfant a grandi s'effondre. Donc, le langage implique une croyance. Le langage structurellement ment, si je devais le dire avec des termes d'enfant, il n'est pas la chose, donc il ment, il y a un écart, il trahit et traduit, il cherche parfois à bien traduire, et parfois il trahit, et très souvent il trahit, et nous vivons dans cet écart entre les mots et les choses. Voilà, c'est à peu près ça.
La question de la croyance, Frédéric Lechter-Flack, la question de croire lorsque le mal arrive. Vous citez un autre exemple parmi les livres que vous étudiez. Il y a le livre de Philippe Roth, Némésis. Alors, juste pour le dire en deux mots, Némésis, c'est une épidémie de polio qui survient à New York, aux États-Unis, en 1944, et qui va frapper, bien sûr, des enfants. Certains vont rester handicapés, d'autres vont mourir. Il y a un personnage, Bucky Cantor, et on est sur fond donc de religiosité, en l'occurrence de religiosité juive. Et l'une des questions posées par ce livre est finalement qui croire encore lorsqu'on en est à prononcer un kaddish, la prière des morts, pour un enfant. Quelle est la réponse que donne la littérature à cette question ?
Dans le roman de Philippe Roth, Némésis, effectivement, la scène se passe dans le quartier juif de Newark et ce détail a son importance parce que pour les juifs, la croyance, ça n'est pas une foi, ça n'est pas le fait d'accorder crédit à, c'est une confiance, c'est avoir confiance en Dieu. Et au fond, c'est cette confiance en Dieu qui est profondément ébranlée, brisée quand des enfants au hasard, se mettent à mourir autour du personnage principal qui est professeur de sport sur le terrain de jeu local du quartier. Et c'est ça qui ne comprend plus. Et comment est-ce qu'on se situe face à un dieu qui fait mourir les enfants? Bucky Cantor va vriller littéralement face à cette découverte. Il va perdre les pédales et briser sa propre vie et renoncer à toute possibilité de bonheur en révolte face à cette réalité, au point que quand il échappe lui-même au quartier contaminé et qu'il rejoint sa fiancée dans le petit paradis à la campagne où elle s'était réfugiée et qu'elle lui dit « Dieu merci, j'ai tellement prié, qu'est-ce que je suis heureuse que de te retrouver sain et sauf, mon Dieu, comme j'ai prié, merci mon Dieu !» Mais c'est une douche froide qui accueille la pauvre Marcia parce que Bucky Cantor ne supporte pas d'entendre sa fiancée prononcer une action de grâce à un dieu qui, certes, l'a sauvé lui, provisoirement, mais qui n'a pas sauvé les enfants à la mort desquels il a assisté. Et ce rapport religieux au monde, ce rapport religieux, cette religiosité un peu infantile qui consiste à croire que Dieu est en maîtrise et qui a encore du sens dans la répartition du malheur, eh bien, c'est ça qui est insupportable à Bucky Cantor. Et sa révolte, je crois qu'elle nous importe au plus haut point. Il nous importe au plus haut point de la comprendre aujourd'hui parce que la manière dont il a traversé son épidémie fictionnelle à lui nous éclaire énormément sur la manière dont nous avons traversé la nôtre et dont nous pouvons encore y réagir.
Et oui, alors, il se trouve que j'ai lu ce roman de Rod pendant l'épidémie de Covid, mais cela frappe particulièrement de voir finalement quelle attitude adopter vis-à-vis d'une épidémie qui, à la manière de l'épidémie de polio telle que la décrit Roth, hein, je ne parle pas de la vision médicale des choses, eh bien frappe peu de monde, les frappe durement lorsqu'elle les frappe, mais au final représente un risque faible. Il y avait inévitablement un parallèle à faire entre Roth et ce que nous avons vécu, Frédéric Lechter-Flack.
Oui, et d'ailleurs, le personnage de Roth joue les apprentis sociologues. En fait, il voit très bien que ça a l'air d'être au hasard, tel enfant et telle vie est cueillie, telle autre est préservée, ça a l'air d'être au hasard. Mais évidemment, il avance un petit peu plus dans sa réflexion. Il constate que les conditions de vie, les degrés d'exposition au virus jouent aussi leur rôle. Il reste cependant de l'aléa que la sociologie, que l'approche sociologique ne peut pas résorber. Et c'est cet aléa qui est absolument insupportable au personnage et dont il ne sait que faire et avec lequel il se débat. Et il me semble, encore une fois, que le dysfonctionnement, le pathologique du personnage de Roth nous dit quelque chose des mauvaises manières de réagir à ce vertige, à ce bouleversement de notre vision du monde que nous fait subir l'expérience d'une épidémie.
Camille de Toledo, il y a une autre créature métaphysique dans votre ouvrage qui, elle aussi, nous permet de voir la littérature, son rôle d'un autre œil, c'est le Moby Dick d'Herman Melville. Là aussi, je vous propose de nous le présenter, de nous dire pourquoi cette œuvre vous retient.
Alors, on est donc la lecture que j'en donne, qui reprend d'autres d'ailleurs des éléments d'autres lectures, mais disons qu'on est dans une époque, 19e siècle, où en fait on tue des baleines pour produire de l'huile, et pour extraire l'huile des baleines, pour ensuite mettre dans des lampes à pétrole. Donc c'est le début des révolutions industrielles, notamment aux États-Unis. Et donc, il y a une sorte d'épopée océanique dans Moby Dick. On lit souvent Moby Dick avec, à l'image en tout cas, cette lutte à mort entre Ahab, avec son esprit de vengeance, et le Léviathan. Voilà. Et en fait, si on regarde bien, très très vite, Melville, d'ailleurs dans la continuité, ou avec Bartleby, qui a toujours un peu comme ça à l'œil, à la fois Manhattan et le premier capitalisme américain, Melville voit ça avec une grande lucidité. Il décrit en fait une économie de la spéculation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui possèdent le bateau. Le PECO, il est divisé en parts, en actions. Donc il y a des actionnaires qui sont des Quakers. Donc si vous voulez, sur France Culture, je crois qu'on peut le dire, c'est déjà, il annonce l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. C'est-à-dire qu'il décrit les actionnaires du PECO comme étant celles et ceux qui vont au temple sans problème pour prier pour la paix et la bonté, etc., et qui en même temps envoient des bateaux sur la mer pour massacrer des baleines. Et donc il y a cette économie de la croyance des Quakers actionnaires du PECO, et donc c'est ce que je déploie dans le livre en montrant qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de mystère encodé dans Moby Dick qui est lié notamment à la figure du harponneur, Queequeg, et qui est le camarade du narrateur Ismaël. Et donc c'est cette énigme que je soumets, que voilà, qui est une énigme au fond sur l'économie de la croyance. C'est-à-dire d'un côté on a des protestants qui envoient des bateaux massacrer des baleines, et de l'autre en fait il y a ces harponneurs qui ont une autre cosmovision, une autre ontologie, dirait l'anthropologue Philippe Descola, et qui eux en quelque sorte ont un autre lien aux entités de la nature non humaines, notamment les léviathans, les baleines. Et donc en fait c'est ce conflit de croyances, ce conflit d'attachement, ce conflit d'encodage que je déploie, voilà, pour essayer de comprendre en fait à travers Moby Dick ce qui est là encore une fois ce qui nous arrive, pourquoi il y a de la production de fiction et en même temps pourquoi chiasmatiquement il y a de la destruction massive.
Mais alors, dans cette œuvre que vous citez, on a souvent prêté justement à Moby Dick une dimension purement métaphysique.
Oui, alors évidemment, il y a le combat avec, en quelque sorte, le messager. Enfin, bibliquement, le Léviathan, c'est pas n'importe quelle entité. C'est effectivement, c'est l'envoyé, c'est celui qui va avaler Jonas. Enfin, c'est le monstre, c'est le grand poisson. Enfin, bon. Donc il y a un certain nombre de d'encodages. Mais évidemment, ces encodages religieux du monde vont avoir des incidences sur la matière. C'est-à-dire que si je peux aller prier, je le décris en fait dans Moby Dick en disant. Qu'est-ce qui nous arrive avec l'affirmation des monothéismes? Qu'est-ce qui nous arrive quand on sépare entre le sanctuaire et le profane? Et il y a cette phrase dans le livre, dans l'histoire du vertige, en disant, une fois que le monothéisme est là, où il s'affirme, alors profane, la terre sera profanée. C'est-à-dire que si la matière n'est plus chargée d'animation, y compris de sacralité, alors ça deviendra une matière profane et donc il y aura profanation. Voilà, bon,
Frédéric Lechterflack, on a débuté avec le livre de Job, on finit par Moby Dick, mais on finit par un récit métaphysique. Votre conclusion?
Oui, c'est bien sûr, c'est une fable métaphysique, Moby Dick, puisque c'est une manière de partir à l'assaut de Dieu que ce combat contre la baleine blanche, et c'est bien comme ça que Melville concevait son livre. Et en même temps, souvenez-vous, ça se termine mal, ça se termine par une destruction généralisée. Autrement dit, cette quête métaphysique dans laquelle le capitaine a embarqué tout son équipage, a emmené tout le monde dans son délire, ça se termine par le naufrage du bateau. Et il n'y a qu'un seul survivant, le narrateur. Et au fond, ce roman nous oblige aussi à nous tenir sur cette ligne de crête entre la fable métaphysique, la grandeur, le caractère exaltant, la ferveur de ce combat contre Dieu, et la réalité profane qui est que des vies sont perdues, et ces vies, elles valaient quelque chose, elles avaient un sens, elles avaient une valeur, et il n'en reste qu'un, celui qui est là pour raconter l'histoire.
Merci à tous les deux, merci Camille de Toledo. Une histoire du vertige.
Petit clin d'œil à Jean Giono en fin d'émission, parce que c'est lui la baleine blanche, mais c'est un cachalot. J'ai cette petite rectification, mais on lui doit le fait qu'on croit aujourd'hui que c'est une baleine blanche.
Voilà. Merci Camille de Toledo, une histoire du vertige. Donc votre livre aux éditions Verdier.